Vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe de la part du téléphone mobile Bouygues Télécom le 30 septembre à 19h34. Voici le message.
Plus de consommation, téléphone portable ordinateur sont aussi responsables de la nouvelle pauvreté.
Bouygues Télécom vous dit au revoir.
Alors écoutez, là, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir écouté. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui manipule pas la langue de bois et qui est en plus un connaisseur terrible. Alors là, merci Daniel, merci. Quand tu veux, tu en ramènes d'autres comme ça. C'est un vrai plaisir, je t'assure. Là, moi j'ai 60 ans, je suis à la retraite et c'est vrai que ça fait du bien parce que on est un peu désespéré quand même en ce moment. Allez, ciao, à bientôt, au revoir.
Salut Daniel, vous l'avez entendu, Fillon, il l'a dit, il l'a répété, ne vous inquiétez pas. Voilà, l'État sera là pour que votre petite économie soit sauvée, donc à hauteur de 70 000 euros par compte. Alors comme il doit y avoir environ 20 millions de comptes en banque dans ce pays, on va dire, grosso modo, ça fait quand même 14 milliards d'euros. Pour des caisses vides, hein, ça fait quand même un an et demi qu'on nous dit que les caisses sont vides, bah, y a quand même de l'argent pour sauver les banques. Bon, il n'y a pas d'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour la culture, il n'y a pas d'argent pour le service public, il n'y a pas d'argent pour les fonctionnaires, il n'y a pas d'argent pour la santé. Mais il y a de l'argent, il y a 14 milliards d'euros dans les caisses qui sont vides, je le répète, pour sauver les banques. Je crois qu'en ce moment, il n'y a qu'une seule action qui soit en hausse, c'est le foutage de gueule. Allez, salut.
Ouf, merci Ciné Hebdo et merci surtout Jules Lafargue. La phrase qui est en première page de Ciné Hebdo me ravit. Fusiller les riches de but en blanc serait de la folie. Il faut d'abord les mettre en prison et les affamer jusqu'à ce qu'ils aient fait revenir de l'étranger l'argent qu'ils y ont caché. C'est seulement quand ils n'auront plus rien que nous les fusillerons. Jules Lafargue. C'est la solution. À bientôt.
Bonjour Daniel. La crise bancaire aux États-Unis. Les citoyens nord-américains ont été très bien inspirés de bombarder ces élus, ces députés, pour leur demander de s'opposer à ce crédit. Et il ne faut pas oublier que toutes ces entreprises sont en train de faire une manœuvre d'intimidation promettant l'enfer pour tout le monde si l'industrie s'écroule. Alors que eux n'ont pas hésité une seule seconde à désindustrialiser la France et d'autres pays, laissant sous les carreaux des milliers de techniciens et des employés et des ouvriers, n'ont jamais eu peur. Et maintenant, ils essayent de nous faire peur. Il s'agit ni plus ni moins qu'un coup d'État à niveau planétaire des forces néolibérales. Il faut être intraitable et s'ils veulent s'effondrer par ses propres agissements, qu'ils les fassent. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est récupérer ces industries à niveau européen. Il faut interdire d'introduire dans les territoires européens des produits fabriqués par des esclaves. Il faut que notre dignité sociale soit exemple pour tout le monde. Ce n'est pas à nous de payer leur moins social. Ce n'est pas à nous de payer ces injustices. Nous, on doit être intraitables et on doit dire, si vous voulez vous effondrer, vous vous effondrez. Il n'y aura pas un sou de notre part. À bientôt.
Oui, bonsoir. C'est assez savoureux de constater comment vos deux derniers sujets se télescopent là en ce moment. Dérégulation et course au profit permanent ont entraîné une crise boursière sans précédent qui va peut-être être l'équivalent de la crise de 29. Et dans le même temps, en matière énergétique, dérégulation et course au profit entraînent de sérieux problèmes sur les centrales nucléaires qui peut-être un jour, allons savoir, nous péteront à la tête. Voilà. Quand on interroge les responsables du nucléaire français, si on résume leur discours, c'est on n'est pas chez ces imbéciles de soviétiques, nous on sait ce qu'on fait, cocorico, vive la France. Mais voilà, on peut se demander si éventuellement ils savent vraiment ce qu'ils font, à part du fric. Mais bon, voilà. Bonne continuation. Au revoir.
Eh ben bravo, c'est ça le rapprochement à faire entre l'émission de lundi sur le site du Tricastin, où vous le savez tous parfaitement, il ne s'est rien passé. Et puis l'émission d'hier avec Frédéric Lordon qui a fait un tabac. Vous êtes très content, vous avez été très content de cet entretien avec Frédéric Lordon sur donc la crise boursière et les moyens de d'y remédier. Enfin, si toutefois c'est encore possible, vrai dire à cet auditeur Alejandro de Tarbes, l'idée de Lordon, s'il nous fait la grâce de le réécouter, ce qui est très possible sur labas.org, la-bas.org, vous pouvez réécouter l'entretien d'hier. Je crois que ce que dit Frédéric Lordon, c'est d'accord, l'État éponge l'affaire, mais, et il appelle ça la conditionnalité, mais, l'affaire reprend le contrôle de la finance. C'est ça, en gros, très caricaturé, ce qu'il développe dans cette émission que, donc, à nouveau, je vous conseille, je me permets de vous conseiller de réécouter sur labas.org. Alors, du coup, aujourd'hui, eh bien, nous revoilà sur le site du Tricastin, où, encore une fois, il ne s'est rien passé, en principe. En principe. Tout comme il ne se passait rien jusque-là, ou presque rien, dans le monde charmant de la finance et de la bourse. Alors, il se pourrait bien qu'effectivement, un beau jour, eh bien, la crise nucléaire ressemble à la crise boursière, ou vice-versa, ça s'est vu après tout, dans le passé, d'où cette heure que nous allons passer ensemble à nouveau. Un petit peu les crocodiles, on va retourner un petit peu voir les crocodiles, oui, et un petit tour sur la Nationale 7 aussi, c'est tout à fait charmant, c'est une balade tout à fait charmante, en attendant que le ciel nous tombe sur la tête. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Auditeurs modestes et géniaux du Pas-de-Calais, rendez-vous ce jeudi 2 octobre à partir de 18h30, au repère chez Tartous et compagnie de Monchy-Breton. C'est donc un petit village proche de Saint-Paul-sur-Ternoise. Nous serons contents de nous retrouver et nous aborderons de nombreux sujets. Exemple, le capitalisme moribond, la future conférence européenne sur la gestion de l'immigration organisée par le ministre de l'Identité nationale Hortefeux. C'est début novembre à Vichy, ça ne s'invente pas. Allez, courage, ne lâchons rien.
J'ai trouvé sur le site Bakchich Info une information suivante. L'oncle du roi Mohamed VI a grièvement blessé par balle un policier qui voulait lui infliger une contravention pour avoir grillé un feu rouge. Voilà, c'est tout.
Bonsoir. Donc je viens d'entendre M. Jean-Claude Trichet qui nous demande d'avoir confiance, qui nous dit qu'il est là pour inspirer confiance, mais j'en ai ras-le-bol de ces gens qui se foutent de notre 3 milliards d'euros pour sauver des banquiers, des gens qui s'en sont foutus plein les fouilles. Et quand je pense que les RMistes comme moi, à 63 ans, si on laisse passer un paiement à la banque, un prélèvement automatique qui passe à l'as de 25 euros, on se retrouve avec 8,70 euros de frais. Ils se foutent de notre gueule. Je vous jure, ça me rend, mais vraiment, plus que malade. Je hais ces gens. Je les hais. Je ne suis pas prête à prendre une Kalachnikov, mais presque. Voilà. À mon âge.
Oui, allô, bonjour. C'est juste un petit message pour dire que les parents d'élèves de Maïman, petit village de la commune d'Apatou, sur le fleuve Maroni, en Guyane française, en ont eu marre de l'irresponsabilité du rectorat de Cayenne et de ses sbires qui n'assurent pas du tout convenablement la mission d'éducation de nos enfants. Un mois après la rentrée, plus de 400 enfants n'ont toujours pas école, faute d'enseignants nommés. C'est un problème récurrent qui survient chaque année, mais cette fois, pas question de se laisser avoir par les mensonges aberrants d'un recteur qui ne fait pas son travail. Honte à Darkos qui promet la même école à tous. Nous avons décidé que tant qu'un enfant n'a pas d'enseignant, les autres enfants n'auraient plus école. C'est l'égalité dans l'école de la malchance. À ce jour, nous bloquons toutes les écoles de la commune, le collège, la poste, les services municipaux. N'en déplaise à certains, il en sera ainsi jusqu'à ce que tous nos enfants aient un professeur physiquement présent sur site. Hasta la Victoria siempre. C'était Sébastien d'Apatou, un parent d'élèves comme les autres. Merci à toi, Mermet, de passer ce message, car nous nous sentons bien seuls dans notre petit village, au cœur de la forêt, face à la puissance de feu d'Arcosienne. Ciao, continuez, bon courage. Merci.
Cela pourrait être une pensée de Pierre Dac, mais ça n'est qu'une boutade. Le socialisme est un mal utile au capitalisme, et réciproquement, le capitalisme est un mal qui peut être utile au socialisme.
Ah, ça y est, on arrive dans la Drôme. La Drôme, Montélimar, les Nougats, Pierre Latte, le site de Tricastin, sa centrale nucléaire et sa nationale 7. On est heureux, ma petite Lucette. On n'est pas peureux. Ben alors, je te jure.
Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Bon, chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7.
L'acceptabilité du risque nucléaire donc, est un compromis avec l'ensemble de la population.
Pour les habitants, il y a des consignes de sécurité.
On a des procédures, alors, oui. Pour les crocodiles, oui. Enfin, ce sont des procédures de confinement, de la même manière que pour les individus humains.
Tant qu'on ne viendra pas voir dans quelles conditions de travail se font les interventions, on aura de graves accidents. Il y aura des accidents plus graves que ceux qu'il y a actuellement, quoi. L'industrie nucléaire ne va pas si bien qu'on veut nous faire croire.
C'est impressionnant, ça semble maîtrisé. Voilà. Il y a plein d'ordinateurs, voilà. des écrans d'ordinateurs partout, des boutons de rouge qui ne s'allument pas, donc tout va bien. Mais en fait, derrière ça, il y a des grouillots, il y a les petites mains.
Oui, il n'y avait que ça. Il y avait des grouillots qui avaient le petit rouleau de scotch avec.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec du scotch dans une centrale nucléaire ?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao. Il ne s'est rien passé sur le site du Tricastin. Et voilà, on est heureux, National 7, douche France, la Drôme, son doux soleil, ses montagnes bleutées. Ses champs, ses vignes, ses oliviers, c'est déjà la Provence. Avec ses petits villages si bien cachés, ses jolies centrales nucléaires, ses sympathiques crocodiles. Quoi ? Quelque chose qui cloche, quelque chose vous inquiète, c'est quoi ? C'est les oliviers ? Ah, les montagnes peut-être, les vignes, ah, les crocodiles. Ah ben non, mais c'est les crocodiles de la ferme des crocodiles. Cette ferme des crocodiles, c'est un genre de zoo, avec toutes sortes de crocodiles, heureux et souriants et pataugeants dans les eaux chaudes de la centrale. La centrale ne peut pas vous inquiéter. Comment ça, vous n'avez pas confiance? Mais ayez confiance. Ayez confiance. Cet été, non, il ne s'est rien passé à la centrale nucléaire du Tricastin. C'est une affaire médiatique, une affaire de tapage médiatique. Le 7 juillet, une grosse fuite, enfin grosse, pas tant que ça, une fuite d'uranium. Aussitôt, tapage médiatique. Le 16 juillet, la découverte d'une pollution dans les nappes phréatiques. À nouveau, tapage médiatique, si bien que Madame Lauvergeon, la patronne d'Areva, est révoltée contre cette stupide opinion publique qui s'affole pour un rien. Et elle déclare au quotidien Libération, il faut dire Rothschild de Libération, au quotidien Rothschild de Libération, elle dit ceci, si à chaque fois que nous sommes transparents, nous provoquons des craintes, il y a un problème. Voilà
l'erreur d'Areva, c'est d'être transparent. Ça, c'était le 19 juillet. Or, voilà que le 23 juillet, une centaine d'employés du réacteur numéro 4 sont contaminés par de la poussière radioactive. Mais là-haut non plus, pas de problème. L'incident est classé risque zéro. Et puis, à cette époque-là, 23 juillet, tout le monde s'en fout, c'est les vacances, c'est les Jeux Olympiques de Pékin. Or, voilà qui pas que le 8 septembre, récemment donc, au cours d'une opération de renouvellement du combustible dans le réacteur numéro 2, deux assemblages sont restés accrochés aux structures internes, ce qui présente un risque, et nombre de spécialistes évoquent, un risque de réaction nucléaire incontrôlée. Mais tout ça, ce sont des incidents. Des incidents, il y en a une centaine chaque année dans nos centrales, parmi nos 58 réacteurs vieillissants, c'est vrai. Alors, pas facile de tenir le compte précis de ces incidents. Le quotidien Le Monde publie aujourd'hui un papier intéressant qui pourra vous intéresser. Amis françaises et français, 1000 milliards de dollars, c'est la facture de l'air économie. 1000 milliards de dollars, c'est la somme qu'il faudra débourser pour assainir les sites en fin de vie. 1000 milliards un jour, 700 milliards la veille, pas mal, non? Mais on est rassuré, il ne s'est rien passé cet été sur le site du Tricastin. Et souvenez-vous de ce que nous disait lundi la dame, la porte-parole locale de la CGT. L'acceptabilité, c'est pas facile, c'est un mot qui ne m'est pas familier. L'acceptabilité du risque nucléaire est un compromis avec l'ensemble de la population. Vous le saviez, ça? Non, nous non plus. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, il ne s'est rien passé sur le site du Tricastin.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour une terre et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappe fêlée pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Areva au Niger, dans ses mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner, leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. 60 000 tonnes de déchets par an, on enterre. Les outils, les machines irradiées, on enterre. Les combinaisons, les gants pollués, on enterre. Plus de place à l'ague, alors dans l'aube, on enterre. Et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrière, petits-enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
T'es jamais venu ici alors?
Non.
Donc là on rentre à proprement dit dans la serre.
Mais là, il n'y a quand même pas de crocodile en liberté, là.
Là, ici, non. Ici, vous n'en avez pas. C'est juste en dessous, vous en aurez.
Parce que j'étais prêt à prendre des risques pour aller à la centrale de Tricastin, mais pas pour me faire manger par un crocodile.
Il
n'y
a aucun risque ici. Okay. Tout est sécurisé.
Et l'eau est à combien de degrés ici?
Ça varie entre 28 et 32.
Et là, en ce moment, il y a un gros pépin sur un réacteur, là, avec les barres qui sont restées bloquées. Du coup, ils vous envoient moins d'eau chaude ou ils continuent?
Non, il n'y a pas de différence.
Il y en a un qui s'approche là, hein, mais il a plongé sous l'eau. Hein. Mmh.
Ouais. Les mâles se castagnent un peu entre eux, mais ça reste ça reste gentil.
Allô?
Oui.
Oui, qui t'es parlé, monsieur?
Merci.
Vous avez essayé de nous joindre, alors quelle était votre demande exactement?
Bah écoutez, moi je fais une émission sur les suites de l'accident, de l'incident du 23 juillet. J'aurais aimé savoir c'est s'il y avait justement une sous-traitance d'Areva sur ce chantier.
Alors là, Areva Tricastin n'a rien à voir avec tout ça.
Je vais donc attendre que EDF me rappelle. Parce que moi, là, le seul élément tangible, bon, ça va vous faire rigoler, mais comme j'ai pas pu rentrer sur le site, je suis allé visiter la ferme des crocodiles.
Oui.
Qui est en face, donc qui est en partenariat avec Areva, c'est ça? Vous fournissez de l'eau chaude?
Des calories, oui.
Donc voilà, c'est pas un élément qui va vraiment rassurer nos auditeurs, que les crocodiles se portent bien, vous êtes d'accord avec moi?
Ils ont la vie dure, en plus, les crocodiles. Ça, ils s'entendent.
Ah oui, d'accord.
Mais tout dépend de votre reportage. Moi, je sais pas quel est votre reportage, là. J'ai quelle idée d'aller interviewer des crocodiles, quoi. Enfin, la ferme aux crocodiles, je sais pas.
Mais nous, on s'intéresse aux conditions de travail des intérimaires dans le nucléaire.
Nucléaire.
Donc, voilà.
Ah. Bon, bah, c'est pas des sujets qui sont les nôtres actuellement, quoi. Écoutez, si jamais je sais quel contact, je vous promets que je vous appelle et je vous le dis.
C'est gentil.
C'est telle personne, c'est tel numéro.
Merci beaucoup.
Dans tous les cas, ça, c'est pas nous. OK.
Merci bien.
Bah oui, la dame d'Areva, l'aubergeon, l'avait dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, si à chaque fois qu'on est transparent, ça crée de l'inquiétude, eh ben, il y a un problème. Donc, soyons moins transparents. Ça semble être un petit peu le mot d'ordre. Voilà, mais il est charmant, ce monsieur Gilles Salgas, qui est le responsable de la communication d'Areva pour le Tricastin, pour ce site du Tricastin, mais vous voyez, il est pas responsable, ça le concerne pas directement, mais enfin, on espère qu'il nous rappellera pour nous donner quelques indications. Donc, effectivement, s'intéresser aux crocodiles, on préférerait... Mais un reporter, c'est ça, hein, s'il faut bien qu'il rapporte quelque chose, il faut bien que ça vive aussi, un reporter. Et le but de ce reporter, Antoine Chao, c'était de s'intéresser aux intérimaires dans le nucléaire. Il nous a présenté quelques-uns lundi dernier, ce qui n'a rien fait pour calmer nos inquiétudes. Quelqu'un qui va pouvoir nous apporter quelques lumières, peut-être lui, c'est Bruno Charéron, qui est ingénieur en physique nucléaire et qui est à la CRIRAD. Alors, il va nous expliquer ce qu'est la CRIRAD. Bruno Charéron.
Donc à peu près la seule information tangible que j'ai pu avoir autour du site de Tricastin, c'est que les crocodiles ont la peau dure.
D'accord.
Donc la question, c'est de savoir si les intérimaires qui étaient là le 23 juillet ont la peau aussi dure que les crocodiles et n'ont rien à craindre pour leur santé. C'est un peu ça la question. Donc je me tourne vers les sources non officielles.
Donc je m'appelle Bruno Charéron. Donc de formation, je suis ingénieur en physique nucléaire et je suis responsable du laboratoire de la CRIRAD. Depuis 1993. CRIRAD, ça veut dire Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité. C'est une association, loi 1901, qui a été créée en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl, puisqu'à cette époque, l'État français nous a menti. Un communiqué du ministère de l'Agriculture disait, en raison de son éloignement, le territoire français est totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl, ce qui évidemment est faux, et à des niveaux qui auraient vraiment nécessité des mesures de protection dans l'Est de la France, en Corse. Ces doses pouvaient largement dépasser les limites sanitaires en vigueur à l'époque.
Selon l'autorité de sûreté du nucléaire en France, il se produit en moyenne un incident chaque semaine, la plupart classés sans conséquences, mais pas tous.
Eh bien, cet été, 6 événements très médiatisés ont inquiété l'opinion publique, alors à tort ou à raison. Lionel Cavicchioli, je rappelle que vous représentez le réseau Sortir du Nucléaire. Tout l'été, votre association a crié au loup, alors qu'aucun des 6 incidents dévoilés n'a dépassé le niveau 1, c'est-à-dire le plus faible sur une échelle de 7. Est-ce que vous ne cherchez pas systématiquement à faire peur ?
C'est absolument pas le but de notre association. Ce que nous cherchons à faire, c'est essayer de mettre à disposition l'information de la façon la plus objective possible, contrairement à ce que font les responsables de l'industrie du nucléaire. Vous parlez, qui est l'échelle qui mesure la gravité d'un incident nucléaire, est une échelle qui n'a aucune valeur scientifique. C'est une échelle qui est uniquement utilisée à des fins de communication, et on voit bien avec ce qui s'est passé lors de l'événement du Tricastin qu'elle est très rarement respectée. Elle est très 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 flexible. Donc on ne peut pas se baser sur elle pour évaluer correctement un incident nucléaire. Le problème de l'industrie du nucléaire, c'est qu'elle ne peut pas montrer son vrai visage, parce que c'est une industrie qui pollue, c'est une industrie qui est dangereuse, et en fait, si on s'intéresse simplement aux faits, on s'aperçoit qu'on est à l'opposé du discours qui est tenu par ses responsables. Donc la seule solution pour eux, c'est de communiquer à outrance sur le thème « tout va bien, nous maîtrisons parfaitement, et n'ayez pas peur, on va maîtriser encore pendant des centaines de milliers d'années, puisque c'est la durée des déchets qu'on va laisser à nos enfants après avoir fermé nos centrales ».
Voilà une archive de la CRIRAD, des suites médiatiques, encore une fois, excessives, suite à cette série d'incidents survenus sur le site du Tricastin en juillet dernier, et donc jusqu'à ce mois de septembre, jusqu'au 8 septembre dernier. Alors, notre but, c'était de nous intéresser aux intérimaires du nucléaire, aux nomades du nucléaire, ceux qu'on appelle les nomades du nucléaire. Ils sont quand même assez nombreux en France. 22 000 qui sont chaudronniers, électriciens, soudeurs, robinetiers, employés par des entreprises, par des sous-traitants. Et généralement, ils nous l'ont expliqué lundi, ils sont généralement payés au SMIC, auxquels s'ajoutent des primes journalières pour couvrir leurs frais de nourriture. Mais tout ça, c'est une population qui ne parle pas beaucoup, enfin des salariés qui ne parlent pas beaucoup, qui n'ont, comme beaucoup d'intérimaires, peu d'intérêt à parler. Ça ajoute quand même à l'inquiétude et montre l'opacité de la communication et de l'information dans ce domaine ultra sensible. D'où l'intérêt d'écouter nos interlocuteurs de la CRIRAD qui suivent sur la durée, parce que tout ça s'inscrit dans des affaires de durée, le sort de ces travailleurs.
Donc depuis que la CRIRAD existe, assez régulièrement, on va donner un coup de main, de façon informelle ou formelle, à d'anciens travailleurs, qui ne sont pas forcément que des intérimaires d'ailleurs, des travailleurs du nucléaire ou d'autres entreprises, qui ont été confrontés à une contamination ou à une irradiation. Par exemple, on avait étudié, il y a une dizaine d'années maintenant, un travailleur, M. Pierre Allemann, qui a travaillé au CERN, ce fameux laboratoire de recherche sur le nucléaire et surtout sur la physique des particules, qui travaillait à l'époque, lui, en sous-traitance, sur la gestion des déchets radioactifs du CERN, et qui travaillait dans des conditions assez invraisemblables, hein. Insuffisance de sa protection par rapport à la radioactivité, insuffisance de sa formation. Il a eu ensuite un cancer du poumon. Il est dans une procédure, d'ailleurs, judiciaire. On l'a aidé en faisant des mesures dans son environnement de travail, justement. Et on a pu démontrer à cette occasion qu'il y avait des déchets radioactifs qui sortaient du CERN et qu'on retrouvait dans des poubelles banales. On a aidé d'autres personnes, on a essayé d'aider, en tout cas, un autre ancien travailleur qui s'appelle Monsieur Leclerc, qui, lui, travaillait pour une entreprise sous-traitante qui travaillait à la Comurex. C'est une filiale d'Areva à Malvésie, près de Narbonne. Donc là, c'est une usine de purification, concentration de l'uranium. Lui souffre d'une forme de leucémie qu'il a découvert plusieurs années après avoir quitté ce travail. Et lorsqu'il a essayé d'avoir des pièces de son dossier médical, il s'est aperçu qu'à l'époque où il travaillait pour un sous-traitant de la Comurex, il y a eu à un moment une contamination en uranium assez importante dans ses urines. Alors, il est en procédure judiciaire lui aussi. Et ça n'aboutit pas, ça traîne, c'est très extrêmement compliqué. Le discours officiel de l'exploitant, c'est de dire que si une contamination en uranium a été détectée à l'époque dans ses urines, c'est probablement parce que le prélèvement a été mal fait et que c'est le flacon qui était contaminé et non pas lui. Donc ce que je veux dire à travers ces deux exemples, M. Pierre Allemagne qui travaillait au CERN et M. Leclerc qui travaillait à Comurex, c'est que ces gens se retrouvent dans une situation qui est très difficile à tous les points de vue, et en particulier au niveau humain, au niveau personnel, parce que très souvent, à partir du moment où ils essaient de dénoncer des dysfonctionnements pour faire évoluer la situation, ils ont des pressions de l'exploitant, enfin de leur employeur, y compris de leurs collègues de travail. Et ça, pour eux, c'est très très difficile à vivre. Nous, on est prudent puisque, si vous voulez, on n'est pas habilité à aller à l'intérieur des installations nucléaires. Lorsqu'on demande ne serait-ce qu'à faire des prélèvements des eaux souterraines, c'est quand même pas grand-chose, hein, on nous refuse l'accès. Encore récemment, d'ailleurs, au Tricastin, après l'incident de la Socaterie, on a demandé à aller faire des prélèvements dans le site. La direction nous a refusé de le faire. Par contre, à travers ce que nous disent ces travailleurs, il n'y a pas de raison de ne pas les croire, hein, parce qu'ils disent tous à peu près la même chose, c'est que depuis quelques années, pour faire des économies, EDF veut diminuer la durée des arrêts de tranche pour que ça coûte le moins cher possible, mais la conséquence, c'est qu'il y a du recours à des personnels qui sont pas forcément bien formés, pas assez nombreux. Donc, ce qu'on peut voir, nous, de l'extérieur, c'est qu'il y a vraiment une inquiétude, une angoisse chez ces personnels pour eux-mêmes, leur santé, leur protection, mais aussi pour la sûreté nucléaire avec un grand S. Et là, ça nous concerne en plus en tant que citoyens, puisqu'il s'agit de l'environnement de tous les Français.
Alors, pour essayer d'en savoir plus, notamment en ce qui concerne ces fameux nomades, ces intérimaires du nucléaire, en route pour Bugey et sa centrale nucléaire.
Saint-Vulbas dans l'Ain. On est dans la plaine de l'Ain. Il y a un centre aquatique de remise en forme, village Fleury, trophée du département Fleury. Ah, pardon. Et il y a un centre international de rencontre à Saint-Vulbas. C'est splendide. Alors là encore, des fleurs à gauche, plein de massifs de fleurs. Et là, une fontaine, une superbe fontaine artistique. Voilà. Et qui est juste devant le centre international de rencontre, voilà. Et ce centre international de rencontre, eh ben, c'est sûrement grâce aux impôts que doit payer, aux charges que doit payer la centrale du Bugey qui est là. Là encore un superbe rond-point. Donc tout le matos, effectivement, avoir une centrale nucléaire sur sa commune, ça doit aider. Alors, il y a quand même aussi quelques nuisances. Donc là, il y a un pylône donc pour transporter la précieuse énergie électrique. Donc, il y a un pylône au milieu du village avec les lignes haute tension qui traversent quand même au-dessus des petits jardins, au-dessus des bacs à fleurs. Donc, ils viennent de la centrale du Bugey qui est à peine à 1 km du centre. Voilà, là, il y a des jeunes. Il y a un magnifique gymnase. Des petites maisons bien coquettes et toujours des fleurs et des fleurs et encore des fleurs. Bah ouais. Elle n'a pas volé son titre de ville fleurie, hein, la commune de Saint-Vulbas sur la plaine de l'Ain, à 30 km de Lyon. Il y a un relais poste. Ah, ils ont quand même réussi à liquider la poste, hein, malgré tout. Le service public fout le camp à Saint-Vulbas aussi.
Alors ici, nous sommes au pied de la résidence Alpha 3A, qui est une espèce de résidence style Sonacotra, où sont logés principalement les salariés et prestataires qu'on appelle les nomades nucléaires. Voilà, donc ces nomades nucléaires, c'est les salariés qui sont affectés par leur société sur des arrêts de tranche, qu'on appelle, sur toutes les centrales de France, qui toute l'année vont d'une centrale à l'autre pour effectuer la maintenance de ces centrales.
Alors ici, on est dans la commune de Saint-Vulbas.
Donc 01, qui a mon accent, c'est le département de l'Ain. Et nous sommes à peu près à 200 mètres de la centrale nucléaire de Bugey. qui est une des centrales nucléaires les plus anciennes de France, avec celle de Fessenheim et de Dampierre. Voilà, donc nous avons ce bâtiment-là, et puis si on se recule un petit peu, on voit les fameux réfrigérants.
Donc ici, c'est un des 13 sites nucléaires français ?
Oui, c'est ça, c'est un des 13 sites nucléaires français. Donc la centrale de Bugey, qui comprend 4 tranches nucléaires.
Donc 4 tranches parmi les 53 réacteurs français. Hein. Alors on est au milieu des champs de maïs, on a traversé une grande zone industrielle très proprette avec du beau mobilier urbain, avec des belles pelouses fraîchement tondues.
Oui, oui.
Et ici, donc, c'est une petite cité.
Donc il y a une particularité, celle-ci, c'est qu'elle est divisée en deux. D'un côté, il y a des réfugiés politiques, de l'autre côté, c'est des chambres de 3 mètres carrés avec des cuisines communes, des douches communes qui sont mises à la disposition des salariés du nucléaire comme moi, donc qui travaillons en déplacement. Donc vu la somme que mon patron m'alloue comme indemnité de déplacement, je n'ai pas le choix que d'aller dans des styles de foyers comme ça, puisque l'hôtel serait trop cher.
Alors, qui est votre patron ?
Alors moi, je suis salarié de la société Endel, E-N-D-E-L, qui est une fusion des anciennes entreprises très connues qui s'appelaient Entrepose et Delattre-le-Vivier. Et cette société Endel fait partie du groupe Suez. Maintenant, on peut dire GDF Suez, qui paradoxalement est un des principaux concurrents maintenant d'EDF.
D'accord.
C'est Entrepose qui faisait l'échafaudage, Delattre-le-Vivier, tout ce qui est robinetterie, chaudronnerie, etc., et soudeur. Voilà. Moi, je travaille ce qu'on appelle dans les servitudes nucléaires.
D'accord. Et donc, c'est EDF qui sous-traite à Endel ces fameux travaux de servitudes nucléaires qui sont appelés maintenant logistique nucléaire, je crois, qui a été rebaptisé.
C'est ça. Donc voilà, le mot servitude, alors, paraissait peut-être un petit peu dur, quoi. Puisque dans servitude, il y a service, mais je fais toujours référence aux serfs aussi. Mais bon, les anciens paysans de nos seigneurs, là. Et donc, effectivement, ils ont appelé ça logistique nucléaire. Ça fait plus joli. Donc effectivement, l'EDF, lors de ces arrêts de tranche qu'on appelle, qui ont pour but de changer le combustible, une partie du combustible, mais surtout d'assurer la maintenance, la réparation des centrales nucléaires. Donc de toute la partie robinetterie, etc., etc. Nous, les servitudes, nous, on est des bonnes à tout faire. Hein. On peut faire du nettoyage, mais dans le nucléaire, on appelle ça de la décontamination. On fait du gardiennage, on fait pontier, on fait cariste, on fait magasinier. On fait un peu tout. Et souvent, on est loué, prêté à d'autres sociétés. On fait sur beaucoup de protection biologique. Ça veut dire qu'on met des matelas de plomb pour éviter que les autres salariés, ou même nous-mêmes, prenons des doses radioactives. Puisque le plomb a tenu la dose.
Vous êtes combien comme ça en France de nomades du nucléaire ?
On est 20 000 salariés de la sous-traitance. Et si vous avez une clause de mobilité et que vous le signez, vous êtes automatiquement susceptible d'être affecté en déplacement. Donc vous êtes un nomade. Alors combien il y en a exactement ? Vous avez des salariés, des collègues qui font ça depuis 25 ans. Ils font que ça. C'est leur mode de vie. Ils le payent. Dans mon agence, sur 205 salariés, nous devons être environ 80 salariés qui sont régulièrement affectés en déplacement. 70% de divorcés. C'est un chiffre qui a été donné par ma chef du personnel.
Et il y a beaucoup de ces nomades du nucléaire aussi qui se logent en camping. Hein.
Ah oui, bien sûr, oui. Mais, c'est pas dur. Plus l'indemnité est grande, plus ils vont peut-être mieux se loger. Et encore, c'est pas sûr, parce qu'ils économisent sur ces indemnités de déplacement pour gonfler leur salaire ou pour réparer leur voiture. J'ai un collègue qui est arrivé hier soir, qui a été appelé pour remplacer un collègue malade. Il m'a dit, j'ai trouvé une caravane à 30 km d'ici, une caravane pourrie. Il faut savoir que dans le nucléaire, vous avez des salariés qui gagnent à peine le SMIC. Alors, on en revient au moins 10 ans, quoi. Vous avez des sociétés qui sont arrivées. Je vais les citer, moi, la société Essor. Même la société Techman, qui dépend de Honnête Nucléaire, qui a toute la centrale de Bugey, là, ils ont pris des chantiers sur Chinon et Dampierre à moins 45%. Quoi. Et ça, mais c'est effectivement.
Ça, c'est la société Essor, la bien nommée Essor, qui essore ses employés.
Ah ouais, qui essore ses employés.
Alors là, on est arrivé à une situation où 80% des tâches, disons, sous rayonnement, des tâches dangereuses, ont été sous-traitées par EDF.
80% de la maintenance des centrales nucléaires en France est effectuée par des salariés de la sous-traitance. 80% des doses reçues le sont par les salariés de la sous-traitance. 80% des accidents du travail, je le dis haut et fort, 70% ne sont pas déclarés. 80% des accidents de travail qui ont lieu sur le nucléaire le sont par les salariés de la sous-traitance. Et c'est là le danger, quoi.
Et les conséquences alors de cette sous-traitance à outrance, c'est le moins-disant social qui remporte les marchés en général ? Parce que c'est le moins cher ?
C'est toujours comme ça, oui. Alors là, je vais pas donner une fleur à l'EDF, mais le moins-disant dans les années 90, je l'ai subi, j'en ai souffert. Alors je dis toujours, tous mes collègues l'ont subi, tous mes collègues en ont souffert. Et ce moins-disant a transformé des salariés qui étaient avec leur famille en nomades nucléaires. Pour vite résumer, moi je suis natif de Bolène. Bolène, c'est la ville limitrophe de la centrale Tricastin. J'ai travaillé sur cette centrale pendant 12-15 ans.
Tricastin
ouais. Pour une société de sous-traitance.
Endel déjà ou
une... Non, je n'étais pas Endel. Ouais. J'ai fait dans ma carrière 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociétés. Et c'est notre seul avenir qu'on a. Parce qu'au début, on était fiers à travailler l'EDF. C'était une technologie de pointe, quoi. L'EDF, le nucléaire, technologie de pointe, on participait à l'indépendance énergétique de la France. Maintenant, on est déçus. Quoi. C'est affreux. Quoi. C'est un moulin à vent là-dedans. Et c'est vrai. Puisque ce que je veux dire, moi, c'est l'image qu'ont donné les médias des centrales nucléaires françaises. Chaque fois que vous voyez une émission à la télévision, on vous fait toujours montrer la salle des commandes. La salle des commandes, c'est la salle stratégique de la centrale nucléaire. C'est là où sont nos collègues EDF, les collègues en blouse blanche. Mais personne ne pensait qu'en dessous, juste à côté, grouillaient des centaines et centaines de salariés de la sous-traitance qui travaillaient dans des conditions affreuses, quoi. Après, la mode, c'était vous faire voir la piscine où il y a le cœur du réacteur. Et ça, c'est très joli comme vue, quoi. Ça, on le voit souvent, ça, avec le fameux collègue qui travaille avec la tenue Murora à côté, ça flashe bien la télé.
Oui, ça, c'est impressionnant, ça semble maîtrisé, voilà. Il y a plein d'ordinateurs, voilà. des écrans d'ordinateurs partout, des boutons de rouges qui ne s'allument pas, donc tout va bien, mais en fait, derrière ça, il y a des grouillots, il y a les petites mains.
Oui, il n'y avait que ça, il y avait des grouillots qui avaient le petit rouleau de scotch avec...
Mais qu'est-ce qu'on fait avec du scotch dans une centrale nucléaire ?
C'est notre outil principal, ça, le scotch. Avec du scotch, on rebouche, parce qu'on fait beaucoup de sas. Et ça, c'est à base de scotch. Avant, on faisait tout en scotch avec du vinyle. C'était des œuvres d'art. Pendant qu'on faisait ça, on recevait de l'irradiation de tous les côtés. On prenait des doses mortelles. Donc ça permettait aux salariés soudeurs, ou monteurs, ou chaudronniers, de venir accéder sur cette vanne, avec la fameuse tenue qu'on appelait tout à l'heure Murora, et d'avoir un sas de confinement pour éviter que la contamination lors d'ouverture de cette vanne, puisqu'on ouvre le circuit primaire, là, se propage hors de cette salle ou de ce bâtiment.
Ça empêche l'inhalation des poussières radioactives, mais pas les rayonnements.
Ah non, bien sûr, pas les rayonnements. Effectivement, on travaillait beaucoup, beaucoup au scotch et au cutter.
Mais alors, ce savoir-faire, c'est ces artistes du scotch et de la, et de la tarlatane, ça se perd, ça ne s'apprend pas dans une boîte d'intérim en 3 jours. C'est un art, quoi, la tarlatane.
Ah oui, il y avait des œuvres d'art, on a fait des œuvres d'art au niveau des sas vinyles, ouais.
Il y a non, pas que ça, oui, quoi. On plaisante, c'est assez effrayant de penser beaucoup... que ça se passe comme ça dans une centrale nucléaire.
Bonjour, je suis Jacques-Emmanuel Saulnier, le porte-parole d'Areva.
Ah, très bien, formidable. J'essaye d'avoir un peu des informations depuis une semaine à peu près, sur l'incident du 23 juillet, sur la centrale du Tricastin.
Donc c'est un incident EDF, ça n'est pas un établissement Areva, donc...
Alors justement, je voulais savoir comment Areva, par le biais de ses filiales, était impliqué dans cet incident. On m'a parlé d'employés de Polynor Sud qui étaient sur le chantier ce jour-là.
Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'en tant que tel, Polynor Sud n'était pas impliqué dans l'incident. Il y avait des collaborateurs de Polynor Sud qui étaient dans un bâtiment adjacent et qui ont été évacués avec l'ensemble des collaborateurs évacués.
Ah, ils n'étaient pas dans le bâtiment réacteur ?
Ils étaient dans le bâtiment réacteur.
Donc dans le bâtiment même de l'incident, pas dans un bâtiment adjacent.
Totalement, mais ils ont été évacués avec les autres.
D'accord. Polynor Sud est bien une filiale d'Areva.
C'est une filiale d'une société dont nous sommes actionnaires à 100%, qui s'appelle STMI, c'est la société des techniques en milieu ionisant.
Ouais.
Donc on est totalement dans la famille Areva.
D'accord. D'après vous, alors, quels sont les critères sur lesquels un appel d'offres est obtenu, par exemple, par Polynor Sud ou par un autre sous-traitant ?
C'est un milieu qui est concurrentiel, hein. Donc c'est celui qui est le plus compétent, qui fait la meilleure offre. Là-dessus, l'entreprise qui consulte, elle a toute latitude pour choisir la meilleure compétence.
Mais plus compétent ou plus compétitif ? Est-ce qu'on justement on n'arrive pas à confondre ces deux termes ?
La différence entre compétence et compétitivité, non. Je pense que ce qui va d'abord compter, c'est la compétence, parce que dans le nucléaire, la priorité absolue, c'est la sûreté et la sécurité. De toute façon, c'est pas la peine de baragouiner là-dessus. Celles et ceux qui font le pari du moindre coût pour avoir par ailleurs des profits supérieurs, font une erreur. Et un problème de qualité dans le nucléaire, ça se paye cash.
Mais est-ce que le nucléaire ne l'a pas payé cash cet été, justement ?
Des incidents du niveau 1, c'est du niveau de l'anomalie. Il y a une dimension irrationnelle, encore très forte, vis-à-vis du nucléaire, et a fortiori en situation d'incident. Notre industrie doit absolument la plus grande transparence pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on est un bunker et qu'on soit confiné à l'état de tabou. Ça, ce serait insupportable.
Et voilà, quelqu'un qui lutte contre l'irrationalité, une irrationalité largement partagée dans cette opinion. Alors, retour au budget avec Yvon Laurent, nucléaire intérimaire.
Welcome to EDF Tricastin Nuclear Power Plant.
Société Paul et Nord-Sud a le marché de servitude sur la centrale de Tricastin. C'est elle qui a pris ce marché. Et mon fils y travaille en CDD. D'ailleurs, entre guillemets, pour une Nord-Sud, c'est le fiasco complet. 90% des salariés, c'est que des intérimaires au CDD. Quoi. Dans les contaminés, est-ce qu'il y avait salariés de Paul et Nord-Sud? Bien sûr. Mon fils travaillait. Mon fils travaille comme contrat à durée déterminée pour la Société Paul et Nord-Sud sur Tricastin. Ce jour-là, il était de poste d'après-midi. Donc ça s'est passé le matin. Il m'a bien raconté comment ça s'est passé. Des personnes qui a le plus inhalé de contamination, c'est la collègue salariée et eux, qui faisaient le même travail que je fais actuellement, qui étaient sassiés. Donc elle était à l'entrée du bâtiment réacteur. Et à l'entrée du bâtiment réacteur, c'est un sas, il y a des lanières plastifiées. Quand elles ressortent vers l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un défaut. On le sait, cette salariée, ça faisait 2 jours qu'elle voyait qu'il y avait ce défaut. Elle avait dénoncé au service radioprotection, 2 jours avant, elle m'a dit. Maintenant, ils ont mis en place plein de trucs. Maintenant, toute personne qui se baladait avec un sac de déchets qui pétait, comme on dit, qui mettait des rayonnements, il était accompagné par un mec EDF, il était accompagné pour pas qu'il passe devant les balises. Voilà, c'était devenu un petit peu la parano après.
Welcome to EDF Tricastin Nuclear Power Plant.
Bah, je suis Alain Pecre, donc le directeur de la centrale de Tricastin, et je suis accompagné donc de Catherine Bailleul,
qui est le médecin du travail de la centrale.
Formidable. Alors je n'ai pas pu visiter les installations, hein, bien que j'ai passé 3 jours sur Pierlatte et c'était compliqué. Je comprends, notamment surtout en ce moment avec la situation critique que vous vivez en ce moment. Mais alors comment vous expliquez tous ces dysfonctionnements dernièrement,
après, bon,
ces
incidents? On peut avoir effectivement des dysfonctionnements, mais moi, ma priorité absolue, c'est la sûreté des installations et la sécurité des personnels. Maintenant, quand on a un événement qui arrive sur le site, il est important qu'on puisse communiquer en toute transparence. Et je vous ai dit, moi, je déclare une quarantaine d'événements par an. L'analyse de tous ces événements, elle est supervisée par l'autorité de sûreté indépendante.
Et c'est vous qui préconisez le classement à la SN, c'est bien ça. C'est vous qui préconisez le niveau.
Le niveau, il est toujours proposé par l'exploitant et c'est l'autorité de sûreté qui, au final, décide du niveau, soit 0 ou soit niveau 1. Laisser apparaître dans l'esprit que la sûreté n'est pas la priorité absolue, c'est une erreur fondamentale.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une dilution de la chaîne de responsabilité quand il y a une cascade de sous-traitants? C'est ça la question.
La sûreté, je peux vous dire qu'elle est vraiment partagée sur le terrain par... par tous, hein, et heureusement.
Juste une dernière petite question, on en est où aujourd'hui de la situation critique avec les deux barres de combustible là, qui sont...
C'est un problème technique que les experts vont solutionner.
D'accord, donc pas d'inquiétude.
Pas d'inquiétude du
d'accord.
Tout.
D'accord, bon, je vous remercie.
Je vous laisse avec Catherine Bailleul alors.
Je vous écoute.
Oui, bonjour madame. Vous étiez en service, on va dire, ce 23 juillet, c'est ça, donc le jour de la contamination d'une centaine d'ouvriers, ou combien exactement?
117 personnes ont été concernées par cet incident. À des niveaux extrêmement faibles. Le bilan fait montre que c'est moins d'une radiographie pulmonaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été aussi classé au niveau zéro, parce qu'il n'y a pas eu d'incidence sanitaire sur les personnels.
En tout cas, dans un premier temps, quoi.
Non, je suis formelle. En tant que médecin, je sais que beaucoup susurrent des conséquences style cancer, leucémie, etc. Je suis formelle en tant que médecin. À ces niveaux-là, il ne peut pas y avoir d'effet sanitaire sur les gens à court ou long terme.
Vous niez la controverse scientifique sur ce sujet-là?
Non, tout est fonction de la dose. Il ne peut pas y avoir de choses radio-induites à ces niveaux-là.
Donc si je comprends bien, la contamination, même la faible contamination, fait partie du travail de ces DATR, qui voulait dire directement affectés aux travaux sous rayonnement.
Non, ça ne fait pas partie de leur travail, fort heureusement. Soyez persuadés que je suis très soucieuse de la santé du personnel EDF comme entreprise extérieure.
Est-ce qu'il vaut mieux pas un surplus, justement, de précautions dans ces cas-là et, justement, déclarer un accident de travail pour pouvoir anticiper une maladie potentielle à venir?
Non, si vous voulez, l'accident de travail, c'est constater une lésion qu'on met en relation avec le travail. Après, vous avez le cadre des maladies professionnelles, mais là, à ces niveaux-là, vous ne pouvez pas avoir de lésion. J'exerce depuis plus de 25 ans dans une centrale nucléaire, donc il ne peut pas y avoir d'effet sanitaire à ces niveaux-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, là, des genres? Vous êtes à la fois donc juge et partie, étant salarié d'EDF et médecin du travail pour les prestataires d'EDF.
Excusez-moi, je souris parce que c'est une des questions habituelles qu'on nous pose. Je ne suis pas salarié EDF, je suis complètement hors hiérarchie dans EDF, c'est-à-dire que le chef de la centrale n'est pas mon chef hiérarchique. Voilà. Mmh. Je le fais en toute éthique médicale.
Non, je n'en doute pas, mais qui est votre chef hiérarchique alors?
Le médecin coordonnateur des médecins du travail du nucléaire.
Qui dépend de l'ASN de...
Qui est au niveau EDF, mais j'estime pouvoir m'exprimer en toute indépendance.
Le ciel d'EDF, bonjour. Pour mettre le service en pause, tapez dièse. Merci.
Par rapport à cet incident du 23 juillet, donc aujourd'hui encore, certains de ces travailleurs ont toujours dans le corps une contamination et on voudrait,
Bruno Charéron, si on peut, CRIRAD,
vérifier s'il y a d'autres corps radioactifs que ceux que EDF a déclarés. Vraiment, ça nous paraît probable qu'il y ait d'autres éléments radioactifs qui ne sont pas détectables au moyen de l'examen anthropogammamétrique. Tant qu'ils ont dans le corps ces substances radioactives, ils continuent à subir des doses de radiation à l'intérieur de leur organisme. Ce n'est pas des doses immédiates mortelles, ce sont des faibles doses, mais ces faibles doses, à la longue, on le sait, peuvent augmenter les risques de cancer et d'ailleurs d'autres pathologies. Les recherches qui sont faites depuis plusieurs années maintenant par des scientifiques un peu partout dans le monde montrent, par exemple sur l'uranium, et faites par l'IRSN, Institut officiel français, qu'il pourrait y avoir un lien entre une contamination par l'uranium, par exemple, et des effets sur le cerveau, dont éventuellement la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on demande à la CRIRAD, c'est que ces travailleurs qui subissent une contamination interne puissent déclarer ça comme un accident du travail. Et là-dessus, manifestement, il y a un blocage de la part des exploitants, tous les exploitants. Et il faut rappeler que la Commission internationale de protection radiologique, qui est un organisme d'experts internationaux, et ce n'est pas des antinucléaires, cette commission rappelle que, très souvent, mais de façon erronée, la limite maximale de dose est présentée comme une ligne de démarcation entre ce qui est sans danger et ce qui est dangereux. Pour la commission internationale, cette présentation est erronée. C'est-à-dire dire à des gens, parce que la dose que vous avez subie est en dessous de la limite réglementaire, alors vous n'aurez aucun risque sanitaire, c'est un non-sens scientifique. Ça, il faut le rappeler et le re-rappeler, parce que malheureusement, pourtant on est en 2008, les exploitants du nucléaire, dont EDF, continuent à laisser croire aux travailleurs et au public que si des doses sont inférieures à la limite réglementaire, il n'y a aucun risque. C'est totalement faux. Et c'est parce que le risque existe encore qu'il est demandé aux exploitants du nucléaire d'appliquer le principe d'optimisation des doses, c'est-à-dire faire que les doses soient toujours les plus faibles possibles. Je crois que là, quand même, on peut noter que le fait qu'une centaine de travailleurs ait été contaminés, ce nombre de travailleurs, c'est quand même, à notre connaissance, une première en France. Donc ça doit bien être perçu par les exploitants, par le grand public, comme un signe avant-coureur, un signe qui nous dit, attention, il faut arrêter de faire n'importe quoi, il faut prendre la sûreté nucléaire, la protection des travailleurs, comme une priorité absolue.
Merci à Bruno Charéron de la CRIRAD, merci à Annie Thébault-Moni, Yvon Laurent, Rachid Oujdi, c'était un reportage d'Antoine Chao. Vous pouvez réécouter l'émission d'hier avec Frédéric Lordon sur labat.org, la-bat.org, Et l'émission du jour, vous pouvez la retrouver sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos et Coy Nguyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.